VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Raïssa Girondin en direct de Washington pour Le Monde Aujourd'hui, édition de 18h30 en temps universel. La même heure à Dakar, Conakry, Abidjan. Bonsoir, voici les titres. Au Burkina Faso, une explosion a fait 2 morts dans l'enceinte de la douane de Bobo-Dioulasso. Les autorités ont écarté la piste terroriste. En Égypte, une élection présidentielle sans suspense pour Abdel Fattah al-Sissi. Le scrutin va durer 3 jours. En Angola, le fils de l'ancien président Dos Santos est poursuivi pour détournement de fonds. En Éthiopie, des opposants récemment libérés à nouveau derrière les barreaux. Au Tchad, le Forum national sur les réformes institutionnelles touche à sa fin.
Le choix qui a été fait par les participants, c'est un régime présidentialiste qui nous ramène à la constitution de 90 de Hissène Habré.
Et aux États-Unis et en Europe, des expulsions massives de diplomates russes. La Banque Ouest Africaine de Développement à la une de l'économie. Et puis les derniers résultats de la NBA dans la page sport. Mais tout d'abord, le journal. Au Burkina, une explosion accidentelle fait 2 morts, 1 blessé grave à Bobo-Dioulasso. Cette explosion intervient en pleine célébration de la 19e semaine nationale de la culture. Le point avec Lamine Traoré.
2 personnes ont été tuées dans cette explosion, selon les autorités sécuritaires. Il s'agit d'un agent des douanes en poste et la dame de ménage et 1 blessé grave, l'enfant de la dame de ménage en question. On note aussi d'importants dégâts matériels, des murs brisés et des véhicules détruits. Selon les mêmes sources sécuritaires, il s'agirait d'une explosion accidentelle. La piste terroriste est pour le moment à écarter. Ont-elles affirmé, une enquête a été immédiatement ouverte pour tenter de situer les responsabilités. Cette explosion intervient en pleine célébration de la SNC, Semaine nationale de la culture, ouverte samedi. Depuis quelques jours, la psychose d'une éventuelle attaque terroriste montait ici à Bobo-Dioulasso, même si les autorités rassurent. Cette explosion de ce lundi matin ne fera qu'augmenter la peur au sein des populations durant toute cette semaine culturelle. Lamine Traoré, Bobo-Dioulasso, VOA Afrique.
Et nous reviendrons sur les célébrations de la Semaine nationale de la culture à Bobo-Dioulasso dans la partie magazine. Le tribunal militaire du Burkina Faso, devant lequel comparaissaient les 84 accusés du putsch manqué de septembre 2015, s'est dit aujourd'hui incompétent pour statuer sur une récusation des magistrats demandée par les avocats de la défense. Le tribunal ne peut statuer que sur des demandes de récusation concernant les juges et non les magistrats professionnels, a déclaré le président du tribunal Seydou Ouadraogo, invitant les requérants à saisir les juridictions compétentes. Au Mali, le Premier ministre Soumaïlou Boubé Maïga a prôné la réconciliation nationale au dernier jour d'une visite dans le nord et le centre du pays. Nous allons installer bientôt un poste judiciaire spécialisé antiterroriste pour enquêter et juger les crimes terroristes. C'est ce qu'il a déclaré à Bandiagara, la localité touristique touchée par la crise. En Côte d'Ivoire, la coalition au pouvoir, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, a remporté les premières élections sénatoriales du pays avec 50 des 66 sièges en jeu. Malgré l'absence de l'opposition qui boycottait le scrutin, le RHDP a essuyé des revers à Bouaké et à Yamoussoukro, fief traditionnel du pouvoir qui soutenait le président Alassane Ouattara. Le RHDP y a été battu par la liste des indépendants. En Sierra Leone, la Haute Cour a rejeté un recours d'un juriste représentant le parti au pouvoir, demandant le report du second tour de la présidentielle prévue mardi. On ne sait pas dans l'immédiat s'il se tiendra mardi ou le 31 mars, une date que la NEC a proposée. La réponse pourrait intervenir dans la journée, selon un avocat de la commission électorale. La République démocratique du Congo annonce être capable à elle toute seule de financer les élections de cette année et Kinshasa exclut tout financement extérieur. La République démocratique du Congo dispose des moyens pour financer seule les élections du 23 décembre puisque nous enregistrons une embellie dans les finances de l'État. Ce sont les déclarations du porte-parole du gouvernement congolais. Lambert Mende a déclaré que la RDC a rejeté déjà 2 propositions car il est exclu que les prochaines élections soient financées par l'extérieur. Et les Nations Unies doivent renouveler le mandat de leurs forces en République démocratique du Congo. La nouvelle résolution qui doit être approuvée par le Conseil de sécurité insiste sur la nécessité de faire tout ce qui est possible pour que ces élections du 23 décembre soient organisées dans des conditions requises de transparence, de crédibilité et de sécurité. La MONUSCO est la plus importante mission de l'ONU dans le monde. Et du côté de l'Angola, José Filomeno dos Santos, fils de l'ancien président, a été inculpé de fraude. Il aurait ordonné un virement jugé suspect de 500 millions de dollars lorsqu'il dirigeait le fonds souverain du pays. Le point avec Morgan Guerriec.
Le procureur général adjoint, Luis Benza Zanga, a annoncé que José Filomeno dos Santos est poursuivi pour fraude, détournement de fonds, trafic d'influence, blanchiment d'argent et association criminelle. Surnommé Zeno, il a été nommé par son père, le président José Eduardo dos Santos, en 2013, à la tête d'un fonds souverain avec un capital initial de 5 milliards de dollars. Il a été limogé en janvier dernier par le nouveau président João Lourenço. L'ancien directeur de la Banque centrale, Walter Felipe da Silva, est également inculpé dans cette même affaire. Le magistrat a indiqué que même si l'argent a déjà été rendu à l'Angola, les deux accusés sont sous contrôle judiciaire et leurs passeports ont été retirés. Isabel dos Santos, demi-sœur de Zenou, a aussi été limogée à la tête de la Sonangol, la compagnie pétrolière nationale. La justice a ouvert une enquête sur de possibles détournements de fonds. Considérée comme la femme la plus riche du continent, Madame dos Santos a rejeté toutes ces accusations.
En Éthiopie, la police a arrêté dimanche un groupe de 11 opposants politiques, des activistes et journalistes, dont certains venaient tout juste d'être graciés et libérés de prison. Les précisions de John Lyndon.
Parmi les personnes arrêtées figurent le journaliste Eskinder Nega et l'opposant Amdoulen Araj, qui avaient été libérés en mars après plus de 6 années de prison dans le cadre d'une amnistie annoncée en janvier par le premier ministre éthiopien. Selon l'avocat Ameha Mekonnen, des blogueurs, membres de Zone 9, un collectif très critique du gouvernement, sont aussi parmi les personnes arrêtées. Les dernières poursuites judiciaires lancées en 2014 contre elle avaient pourtant été abandonnées en février. Tous ces opposants qui ont été interpellés hier participaient à un événement pour célébrer la libération des milliers de prisonniers dans le cadre de l'amnistie. La police est arrivée et a encerclé la maison où ils se trouvaient. De tels rassemblements sont interdits par l'état d'urgence décrété le 16 février et qui autorise la détention sans procès. Il a été instauré au lendemain de la démission du Premier ministre. Depuis le 20 mars, la direction du parti au pouvoir s'est réunie pour élire son successeur qui se fait toujours attendre. L'Éthiopie est secouée par une vague sans précédent de manifestations anti-gouvernementales depuis plus de 2 ans.
L'ex-président sud-africain Jacob Zuma comparaîtra le 6 avril devant un tribunal pour répondre d'accusations de corruption dans une vieille affaire de vente d'armes impliquant le groupe français électronique Thales, a confirmé la police. Il est accusé d'avoir touché des pots de vin du groupe français Thales en marge d'un contrat d'armement géant de près de 4 milliards d'euros conclu en 1999. Et les Égyptiens ont commencé à voter aujourd'hui pour un scrutin présidentiel de 3 jours. Le président sortant Abdel Fattah al-Sissi est assuré de décrocher un deuxième mandat. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Les 60 millions d'électeurs ont jusqu'à mercredi pour se prononcer entre le président sortant Abdel Fattah al-Sissi et son unique adversaire Moussa Mostafa Moussa, lui-même fervent partisan du président égyptien. M. Sissi a été parmi les premiers à voter dans le quartier d'Héliopolis, au Caire. Il n'a fait aucune déclaration à la presse. Le premier ministre Chérif Ismaël a aussi voté au même endroit. Rien ne fera peur au peuple égyptien, ni les attaques terroristes, ni quoi que ce soit d'autre, a déclaré M. Ismaël après son vote. Les opérations électorales sont placées sous haute surveillance. Le groupe État islamique a promis de s'attaquer à des lieux de vote. Samedi, 2 policiers ont été tués dans un attentat à Alexandrie et 6 suspects islamistes ont été abattus dimanche, d'après le ministère de l'Intérieur. Les résultats officiels seront proclamés le 2 avril. M. Sissi est le grand favori. L'enjeu reste le taux de participation.
Les États-Unis ont annoncé l'expulsion de 60 espions russes dans le cadre d'une action coordonnée entre pays occidentaux. C'est, disent-ils, pour répondre à l'empoisonnement au gaz énervant d'un ex-agent russe et de sa fille en Grande-Bretagne. C'est comme une avalanche d'expulsions de diplomates russes. Le point avec Idriss Fall.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'administration américaine a annoncé que 48 agents de renseignement connus du consulat de Russie à Seattle et 12 à la mission russe de l'ONU ont 7 jours pour quitter les États-Unis. La Maison-Blanche a aussi décidé de fermer le consulat russe de Seattle, citant sa proximité avec une base de sous-marins et des installations de Boeing. Le Canada emboîte le pas avec l'expulsion de 4 Russes et rejette 3 demandes de personnel supplémentaire présentées par Moscou. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, annonce que 14 pays de l'Union européenne ont adopté les mêmes mesures. La France donne une semaine à 4 diplomates russes. L'Allemagne, de son côté, expulse 4 diplomates russes. L'Italie a renvoyé 2 diplomates russes, tout comme le Danemark. Plusieurs pays qui faisaient partie de l'ancien bloc soviétique, la Pologne, l'Ukraine, la République tchèque, les 3 pays baltes, ont annoncé l'expulsion de dizaines de diplomates russes en solidarité avec Londres pour répondre à l'empoisonnement d'un ex-agent russe et de sa fille en Grande-Bretagne.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. La Minute Éco vous est présentée par Eric Manirakiza.
La Banque Ouest Africaine de Développement, BOAD, a déjà investi en Afrique de l'Ouest près de 5 110 milliards de francs CFA depuis le début de ses activités en 1973. Sa mission est de promouvoir le développement équilibré des États membres et de contribuer à la réalisation de l'intégration économique de l'Afrique de l'Ouest. La toute dernière opération d'investissement de l'institution porte sur 195 milliards de francs CFA et vise à soutenir des projets en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Sénégal et au Bénin. En Côte d'Ivoire, la balance commerciale a dégagé un excédent de plus de 1 708 milliards de francs CFA en 2017. Les exportations se sont accrues de près de 9% et les importations ont légèrement progressé de plus de 3%. Les principaux fournisseurs de la Côte d'Ivoire proviennent de l'Union européenne, de l'Asie et de la CEDEAO. L'ensemble des approvisionnements en marchandises en provenance de ces zones représente plus de 81% des importations en valeur. La Chine appelle les États-Unis à cesser l'intimidation en matière économique. C'est à la suite des jours de tensions qui ont ravivé le spectre d'une guerre commerciale entre les deux premières puissances économiques mondiales. La semaine dernière, le président américain Donald Trump a imposé des taxes sur des importations chinoises d'une valeur pouvant atteindre 60 milliards de dollars. La nouvelle
C'est la musique d'ambiance qui annonce le sport. Bonsoir Nicolas Pinault.
Bonsoir Aïssa, bonsoir à tous.
Les matchs amicaux se poursuivent sur la planète football.
Ce lundi soir, un alléchant Portugal-Pays-Bas à Genève. On rappelle que le Portugal de Cristiano Ronaldo, auteur d'un doublé, a bien lancé sa préparation pour ce Mondial 2018 en renversant vendredi à Zurich l'Égypte dans les arrêts de jeu de buts à 1. Évidemment, la star du Real Madrid, Ronaldo, pour son 900e match pro, a inscrit ses 80 et 81e buts en sélection portugaise, rejoignant par la même occasion le podium des meilleurs buteurs de l'histoire des sélections nationales. On suivra également mardi d'autres matchs amicaux, notamment à Dar es Salaam la Tanzanie contre la RDC, le Kenya face à la Centrafrique, Angleterre-Italie, Bosnie-Sénégal au Havre, la Côte d'Ivoire face à la Moldavie, Tunisie-Costa Rica et puis à Berlin la revanche des Brésiliens pour la première fois depuis cette demi-finale catastrophique. Perdu 7 buts à 1 contre la Mannschaft. Les Brésiliens et les Allemands se retrouvent pour ce match amical qui va sentir la poudre. Autre rencontre, le Maroc face à l'Ouzbékistan et le Nigeria face à la Serbie.
Et enfin la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Le champion en titre Golden State a été surclassé dimanche à domicile par Utah. Une défaite 91-110. Houston ne se pose pas de questions. Pour la première fois de son histoire, l'équipe a atteint le chiffre de 60 victoires en saison régulière en écrasant Atlanta 118-99. Portland s'est imposé sur le parquet d'Oklahoma City 108-105 au terme d'un match houleux avec altercation et provocation. À l'ouest toujours, San Antonio a vu sa série de 6 victoires consécutives prendre fin à Milwaukee, une défaite 103-106. À l'est, LeBron James continue de cimenter sa place dans l'histoire de la NBA. Il a conduit Cleveland à une 5e victoire consécutive à Brooklyn, 121-114, mais c'est un détail. Surtout, LeBron James a dépassé pour la 10e fois dans sa carrière le seuil des 2000 points inscrits lors d'une saison régulière. Tenez-vous bien, seuls les légendaires Karl Malone et Michael Jordan avaient réussi ce tour de force avant lui. Allez, un dernier résultat avant de se quitter. Indiana est venu à bout de Miami en prolongation, 113-107, et a composté son billet pour les playoffs, ainsi que celui de Philadelphie, une première depuis 2012 pour les Sixers.
C'était la page sport avec Nicolas Pineau. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Au Tchad, un forum national sur les réformes institutionnelles touche à sa fin après une semaine de travaux. Sa clôture était prévue pour demain mardi. La réunion a été boycottée par l'opposition et une partie de la société civile qui avait été invitée à participer à sa participation. Le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a déjà annoncé la mise en place d'une 4e république, N'Djamena. Le point avec notre correspondant André Komadjinga.
Ce forum, qui au départ a un caractère national et inclusif, selon les organisateurs, se résume progressivement à un congrès du parti au pouvoir, car au deuxième jour, l'UMPS impose un présidium pour diriger les débats. La société civile indépendante bourdonne et quitte la salle, parce que selon elle, le choix n'est pas consensuel. Au quatrième jour de débat, l'UMPS et ses courtisans optent pour un régime présidentiel avec la création du poste de vice-présidence. Quelques petits partis politiques de l'opposition présents dans la salle pilonnent ses propos et claquent la porte, alors qu'ils savaient qu'en participant à ce forum, il crédibilisait le régime. Réaction du secrétaire général de l'Union nationale pour la démocratie et le socialisme, Garial Modeste.
On donne des paroles par affinité. Les gens qui étaient préparés, qui se prononcent sur le sujet, qui est aussi sensible. Donc ça, c'est pour aller à l'état unitaire et je n'apprécie pas ça. Il a fallu que je joue le rôle d'un voyou pour qu'on nous donne 2 interventions. Dommage.
Vu la configuration des participants et le niveau des débats, l'enseignant-chercheur à l'École nationale d'administration, Dr Sitat Yumbatna Beni, invité comme personne ressource, gèle également sa participation. Il affirme avoir été roulé dans la farine.
On a un document qui est devant nous. On ne travaille pas sur le document et on travaille à côté. Vous avez des gens qui sont fabriqués, n'est-ce pas, dans les coulisses. Ils viennent injecter une idée et on choisit les gens qui doivent applaudir. Et puis c'est terminé. On a bouclé, on s'en va. Quoi. C'est de la comédie, on perd le temps. Et donc je pense que j'ai d'autres choses à faire que de venir m'asseoir là pour applaudir des choses.
Le président du présidium, Dr Noradine Deloua Kassire Koumakoué, dont sa désignation ne fait pas l'unanimité, respecte le choix de ceux qui ont claqué la porte.
Celui qui veut il reste. Celui qui veut partir, il part. On a invité tout le monde pour participer à l'action. Nous ne sommes pas venus pour l'argent. Le fédéralisme est rejeté. Personne n'en fait cas. C'est la décentralisation administrative.
Docteur Mandounoudi Gilbert, politologue et constitutionnaliste qui suit de près le débat, parle d'une escroquerie politico-intellectuelle.
Le choix qui a été fait par les participants, c'est un régime présidentialiste qui nous ramène à la constitution de 90 de Hissène Habré qui donnait tout le pouvoir à un homme et les institutions sont là simplement pour cautionner. Donc, je ne pense pas que ce soit dans la volonté de Déby de mourir au pouvoir, puisque lui-même, il a dit, il n'a pas eu de jeunesse. Donc, au moins, qu'on crée les conditions pour qu'il ait de retrait.
La plateforme des organisations professionnelles des médias n'a pas été associée au débat. Toutefois, elle prend acte de son exclusion à ce forum et se réserve le droit de se prononcer sur les conclusions qui, selon le président Déby, pourraient aboutir à la naissance de la 4e République du Tchad. André Kodimadingar Djamena, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et au Cameroun, retour sur l'emprisonnement de 3 personnalités pour malversation financière écrouées à Yaoundé depuis le 21 mars dernier. L'opinion publique est partagée quant à cette opération menée dans le cadre de la lutte contre la corruption, comme nous allons l'entendre dans ce reportage de notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Juntap.
L'indice n'a pas été trompeur. L'interdiction par les services de sécurité de sortie du territoire à certains hauts responsables du pays vient de lancer une nouvelle phase de la lutte contre le détournement de fonds publics au Cameroun. L'ancien directeur général de la Camwater, Utilistice, William Solo, l'ex-directeur de l'Université de Douala, Bruno Bekoloebe, un ancien secrétaire d'État aux travaux publics, ont été les premiers à être écroués. Le chronogramme de ces arrestations est loin d'être fortuit en cette année électorale au Cameroun. Joya Moussa est enseignant et politologue à l'Université de Yaoundé 1.
Le président Biya se trouve aujourd'hui dans l'impossibilité d'une thématique véritable en termes de bilan pour la campagne. Alors, on peut s'accrocher sur cette diversion de la population à travers la relance de cette opération épervier. Et justement, je crois qu'elle va s'intensifier davantage pour pouvoir servir de casse-sexe à cette absence de bilan satisfaisant de ce temps passé.
Les trois fonctionnaires sont soupçonnés des malversations financières et erreurs de gestion de plus de 50 milliards de francs CFA commises dans leurs fonctions respectives. Ce qui est loin de laisser indifférent Salomon, un jeune employé du secteur privé à Yaoundé.
Dans un pays, lorsque les gens qui nous dirigent confondent un peu l'argent de l'État avec leur propre argent, il est de bon ton que ces personnes-là puissent répondre face à leur mauvaise gestion. Je crois que nous sommes dans un pays de droit.
Dans la classe politique camerounaise, la relance de l'opération dite épervier au Cameroun n'enthousiasme pas tout le monde. Alice Sadio, présidente de l'Alliance des forces progressistes.
Tant que nous copierons sous ce modèle ultra-centralisé où tous les pouvoirs sont à la merci du pouvoir exécutif, le fléau que nous avons nommé corruption et détournement de deniers publics ne sera jamais résorbé. Cette opération épervier est ni plus ni moins que la plus grosse escroquerie du siècle.
Contactés, les avocats des premières personnalités écrouées se réservent encore de s'exprimer à la presse. En Berne, depuis 4 ans, la campagne d'arrestation des hauts gestionnaires de l'État indélicat en cours est la cinquième du genre sous l'ère Paul Biya, Yaoundé, Emmanuel Julta, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Sénégal, le président Macky Sall a appelé à traquer les malfaiteurs qui s'attaquent aux enfants et à les traduire devant la justice. La police a fait état de 2 meurtres d'enfants et de 5 tentatives d'enlèvement. Idriss Fall a recueilli la réaction de Jean-Elvis Ebangondo, président de l'association de lutte contre les crimes rituels au Gabon.
C'est devenu très inquiétant puisque ça prend de l'ampleur. Ces autorités africaines ne veulent pas régler une bonne fois pour toutes le phénomène qui retarde le continent. Au Gabon, le problème existe, a été dénoncé en 2005. À l'époque, il y avait un Sénégalais qui était le représentant de l'UNESCO ici, M. Gassama. Le Sénégal était représenté, tous les États de la sous-région étaient là. On a pris des recommandations qui n'ont jamais vu le jour. Le Gabon s'apprête à organiser les élections législatives. Les crimes rituels reprennent. Il n'y a pas que le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, même au Bénin, on en parle actuellement. Tous ces États-là, les chefs d'État doivent pratiquer la vraie politique. Ce n'est pas la démagogie. Nous ne sommes plus là au niveau des beaux discours dans les amphithéâtres. Nous ne sommes plus là-dessus. Le peuple veut vivre dans la paix.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est des croyances qui ont la peau dure. Qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher de telles pratiques?
Les hautes personnalités, des chercheurs se sont réunis ici à deux reprises à Libreville en 2005 et en 2014. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, dans un premier temps, encourager la méritocratie. Dans un second temps, appliquer la loi, c'est-à-dire mettre fin à l'impunité. Dans un troisième temps, quand on parle de crimes rituels, c'est un problème de culture. Et cette culture est imposée. L'idée qui a été germée au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire essayer d'éteindre ces religions qui viennent par-ci, par-là.
Est-ce que c'est simplement des opérations de police, arrêter les auteurs, ou bien il faut aller au-delà?
Il y a valoriser nos valeurs, la culture de l'amour, de la paix, renforcer l'équipe des médecins légistes, laisser la population s'exprimer, encourager, comme au Cameroun, c'est grâce à la population qu'on a mis facilement la main aux coupables qui sont déjà arrêtés et qui se retrouvent actuellement en Ambam. Donc je crois que si il y a une volonté politique, je crois que le problème sera résolu sans difficulté.
Mais c'est des pratiques où on ne les fait pas sur les places publiques, c'est généralement caché, c'est occulte.
L'occultisme ne fait pas avancer l'Afrique. Je ne crois pas qu'en pratiquant cela, nous aurons des vrais ingénieurs, des intellectuels et cadres de haut niveau qui peuvent faire avancer notre continent. Au contraire, quand on tue, on ne tue pas les fous, on tue la jeunesse, on tue les gens valables et ça nous retarde. Il y a la psychose, ça nous retarde.
C'était Jean-Elvis Ebang Ondo, président de l'association de lutte contre les crimes rituels au Gabon.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Et on finit au Burkina. C'est l'ouverture de la Semaine nationale de la culture, la 19e édition à Bobo-Dioulasso. Le ton a été donné ce week-end. Au moins 1500 artistes venus de toutes les localités du pays prennent part à la Biennale culturelle. Un reportage de Lamine Traoré.
Le premier ministre Paul Kabatieba, par ses trois coups de gong, a ainsi donné le top départ de la 19e édition de la SNC, Semaine nationale de la culture, Bobo 2018. Plusieurs centaines de personnes au stade ont vu défiler l'ensemble des communautés du Burkina Faso, des richesses et diversités culturelles venues des 13 régions du pays. Des artistes, toutes disciplines confondues, danse, musique traditionnelle, art culinaire, littérature et bien d'autres, sont à Bobo. Cette troupe, dans la catégorie poule jeune, venue de la région du centre-ouest, va présenter une danse traditionnelle burkinabé, le Warba. Kirsti Tiemtore est l'encadreur de la troupe.
Le Warba est une danse qui se pratique lors des rites culturels dans la région du centre-ouest, notamment lors des activités de semences, de labour et de funérailles. Cette danse se danse en accoutrement Mwaga.
Ousmane Bansé est responsable d'une troupe du centre-est qui compétit dans la catégorie cœur populaire.
Le cœur populaire, c'est une discipline dans laquelle on demande aux artistes de prouver qu'ils chantent. C'est les chansons qui sont valorisées ici, pas les danses comme ça.
Durant donc une semaine, près de 1300 artistes seront sur les scènes à Bobo-Dioulasso. Au moins 300 000 festivaliers sont attendus à cette Semaine nationale de la culture 2018, selon les organisateurs. Lamine Traoré, Bobo-Dioulasso, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Grandmoms and dads build ships and boats to run us silent and down the coast, torn away from shattered homes. They cleared land they didn't own, plant and seed, fought wars so we'd be free. Now we're keepers of the peace. Some say don't speak of politics, religion turns.
Et ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Joselle Morissin à la mise en onde, Patrick Déa à la console, Raissa Gironda à la présentation. On reste connecté sur Facebook et sur notre site internet voafrique.com pour plus d'actu. Excellente suite de programme. Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.